C'est 23.
Un balado, c'est 23. Produit par le 98.5.
Ça tient la route. Le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charest.
Salut tout le monde! Ça a l'air de rien comme ça, c'est déjà notre 10e émission. Tu sais, aujourd'hui, on fait tout et rien. Wouh! 10 émissions!
Ah oui, on fait, ok, ouais! Moi, j'allais dire ho, 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 tu sais, parce que quand même, l'hiver approche.
On approche.
Noël s'en vient.
On s'en vient là. Alain Mécanet, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Alors, aujourd'hui, évidemment, on va commencer avec nos actus dans quelques minutes. Notre invité de la semaine est chez Genesis. Et non, pas le groupe
Phil
progressif.
Non.
On n'a pas Peter Gabriel ou Phil c'est Collins excellent. À l'émission. On a, Gerard Pellat. Qui est le relationniste de Genesis, la division de luxe de la compagnie Hyundai, pour la nommer, qui va être là pour nous parler justement de Genesis, parce que pour bien des gens, c'est encore un petit peu un mystère de Genesis. On ne sait pas trop par quel bord prendre la chose.
Ben, il cultive le mystère de certaines façons aussi.
Oui, j'aurais des choses que j'ai déjà eues en information off-record, que je ne peux répéter, mais on va en parler avec Jared tantôt. Également, en essai routier, tu nous présentes quoi cette semaine, toi, Anne?
J'ai un Ford Escape hybride.
Ah, oui!
L'Escape hybride, puis il va y avoir l'Escape branchable bientôt.
Voilà,
exact. Je vais faire la part des choses entre les trois modèles, je commence par l'hybride.
Bon, c'est bon. Moi, je vais parler de la Toyota Supra que j'ai finalement essayé. Ça a été long, parce que lors du lancement, Toyota, bien gentil, m'avait invité, mais j'étais déjà à un autre lancement. Alors, j'avais pas pu y aller. Et là, bon, on a dit, on va remettre un modèle au printemps. Le printemps est arrivé, la COVID a frappé, le modèle est resté là. Et là, finalement, je l'ai eu la semaine dernière, juste à temps pour pas qu'il y ait de neige. J'avais quand même des pneus d'hiver, mais je vais vous parler de ça.
Ça, c'est la BMW japonaise, non?
Oui, on va justement, on va glisser un mot là-dessus. Et j'ai quelques questions et peut-être qu'on va avoir de l'extra en balado pour ceux qui l'écoutent sur le site. Puis évidemment, on a l'émission tous les dimanches. Et je vous invite aussi, je prépare un petit concours. Je vais en parler la semaine prochaine. Je suis allé dans mes archives, j'ai fouillé dans mon entrepôt. Va peut-être faire un tirage d'une série d'annuels de l'automobile. Là, je suis en train de travailler
comme
ça.
Comme la collection entière, tu
vois? Ben, comme peut-être la collection entière. Faut que je trouve des 2002.
Ah, OK.
je sais que j'en ai une boîte quelque part. Faut que je la trouve. Mais on va revenir avec ça dans les prochaines semaines. Sinon, ben, annuelauto.ca, notre nouveau site qui fonctionne, qui est live,
en vie. En bon français, ouais.
On met du contenu tous les jours. On s'en vient avec des nouvelles sections. On a introduit une section classique cette semaine avec notre collègue Daniel Ruffiange, qui va écrire la plupart des essais pour ceux qui veulent des modèles des années 1940 à 80. Là, on a un assez bel échantillon. Alors, Alain, on parlait d'actualité. Qu'est-ce que t'as au menu, toi, cette semaine?
Ben, l'ami Daniel Ruffiange, je regarde beaucoup en arrière. Moi, je regarde un peu en avant dans ce cas-ci. On l'a vu dans les dernières semaines. General Motors a renforcé son plan d'électrification. Entre autres choses, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec M. Bisson de General Motors.
Il y a deux semaines, excuse-moi,
le temps file. Cadillac va être entièrement électrique en 2030. Ça signifie un gros changement dans le catalogue pour Cadillac. Et évidemment, il y a des concessionnaires qui ne seront pas nécessairement d'accord. Donc, pour ces gens-là, General Motors a mis en place un plan de rachat de l'enseigne Cadillac.
On est sérieux, là.
C'est
pas de la tarte. Ça va coûter cher, ça.
Il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que pour les concessionnaires, probablement plus aux États-Unis qu'ici, j'ai l'impression, ou dans l'Ouest, peut-être canadien, où ça se vend pas beaucoup, les véhicules électriques, le groupe américain va offrir entre 300 000 et 500 000 $ américains aux concessionnaires, donc aux membres de son réseau qui ne veulent plus avoir la bannière Cadillac sur leur concession.
OK.
C'est des gros sous parce qu'ils sont quand même nombreux, ces concessionnaires-là. J'ai hâte de voir quelle proportion de ces gens-là vont accepter cette offre-là. En contrepartie, ceux qui veulent rester, qui veulent justement faire ce virage-là vers l'électrique, devront, eux, rénover leur concession. Et ça risque de coûter au bas mot 200 000 $. Donc, il y a encore des gros sous qui s'amènent.
Évidemment, c'est 200 000 $ de la poche du concessionnaire.
Exactement.
Pas donc, de la poche de Cadillac. Là.
Absolument. Attendez-vous à des changements. Ben, évidemment, il faut poser des bornes de recharge et un paquet d'affaires quand on s'électrifie, veut pas.
Ouais, puis les baies de service seulement pour l'entretien, ça prend des baies de service isolées parce qu'on travaille avec l'électricité. On faut une distance entre les baies de service qui est plus grande, une formation spécialisée pour tous ceux qui font de l'entretien dans l'électrique. Il y a des frais supplémentaires assez importants.
C'est très sérieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment que, tu sais, souvent on entend parler de ce plan-là de virage électrique depuis des années. Ben là, on voit que les choses se mettent en place pour vrai cette fois-ci parce qu'il y a des chèques qui vont.
C'est ça, c'est pas juste des paroles. Là, on est passé à l'acte. Ça, c'est intéressant.
Oui.
Puis, dis-moi donc, Alain.
Oui.
On parle souvent de Tesla, là, mais...
Oh oui.
Qu'est-ce qui se passe avec Tesla? Là? Ce seigneur, écoute, Elon Musk le fait des étincelles à tous les jours. La oui. valeur en bourse est rendue pharaonique.
C'est un bon mot, ça. Hein? C'est, oui, oui, j'allais dire stratosphérique, mais tout à fait raison. On a parlé, c'est drôle, j'en ai parlé avec Bernard Drinville cette semaine. Elon Musk est rendu le deuxième homme le plus fortuné au monde derrière
Bill Gates?
Jeff Bezos.
Ah non, c'est vrai, c'est Bezos.
Il a passé Bill Gates.
Il a passé Bill Gates, quand même.
Donc, c'est l'homme le plus riche de la planète. Et tu sais, comme plus riche que tous nous autres, là, ouais. Sauf Jeff Bezos. C'est quand même assez spécial.
Puis plus riche dans les connus, parce qu'un bonhomme comme Poutine, Vladimir Poutine,
ouais, ça, y a des gens
on sait pas combien
il
vaut, là,
la
mais
totalité, ouais, la fortune.
Les gens se lancent entre 250 et 300 milliards, mais là, on n'a pas de preuves et on ne le saura jamais.
Exact. dans le cas de Musk, ce qui fait que sa fortune a beaucoup gonflé ces derniers temps, c'est que Tesla fait bien en bourse. Et lui, c'est le principal actionnaire de Tesla. Il a 20 % des actions. Donc, il n'y a pas dans ses poches 180 milliards, je pense, d'argent liquide. Il y a des parts dans Tesla,
non,
c'est
mais
ça qui fait que ça
il y a un joyeux levier, par exemple.
Exactement.
Ouais.
Et Tesla fait bien en bourse en ce moment pour une raison simple. Son action est incluse dans l'indice vedette de la bourse de New York, le S&P 500.
Okay.
Ce qui le rend plus attrayant pour des investisseurs institutionnels ou, disons, plus frileux, parce que Tesla, jusqu'à encore très récemment, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est spéculatif comme
Oui, oui,
comme,
puis on a déjà été dans les junk bonds là, du côté de Tesla à certaines époques.
Ouais. Je pense qu'il faut le rappeler, hein, Tesla ne fait pas d'argent, en tout cas perd des sous pour chaque véhicule qu'il vend en ce
oui,
moment.
Oui.
Ils sont profitables depuis un an parce qu'ils vendent des crédits de carbone à d'autres fabricants. Donc, ils ont une stratégie à ce niveau-là qui a besoin d'être revampée. Et ce qui fait que la compagnie commence à avoir une certaine croissance durable en bourse. Encore cette semaine, elle a pris un autre 10-15%.
Exact.
C'est qu'il y a de plus en plus d'analystes qui se penchent sur le modèle d'affaires de Tesla.
Ben voilà, j'allais le dire. C'est surtout ça qui intéresse.
Exact.
Parce que Tesla, contrairement à des compagnies traditionnelles, on parlait de GM tantôt ou Toyota ou autre, on n'a pas de briques et de mortiers, ou très peu. Il n'y a pas des concessions à 15 millions de dollars qui poussent comme des champignons un peu partout. Lui, il a un modèle d'affaires dont va probablement s'inspirer le reste de l'industrie.
Beaucoup de gens vont vouloir faire la même
on
chose.
On va parler à Genesis tantôt.
C'est un bel
exemple. Un exemple
Exactement.
Là de ce qu'on veut
Exactement.
Faire.
Exactement.
Et je pense que c'est vers ça qu'on regarde du côté de l'industrie automobile.
Tesla a franchi le 500 milliards de dollars américains, de valeur boursière cette semaine. C'est plus que, je pense, les 12 premiers grands constructeurs de réunis là, dans l'industrie, à part Tesla. Donc, c'est quand même assez important. Et ils ne font qu'en... Cette année, ils vont faire 500 000 véhicules. Donc, c'est
exact.
Vraiment une grosse valeur par véhicule, quand tu y penses. Là.
Au nombre de véhicules fabriqués,
Exactement.
C'est clair.
La cible, ce serait d'avoir, pour être rentable, selon les analystes, ce serait de faire 3,5 millions de véhicules par année. Ce qui pourrait arriver d'ici 2030. Mais l'objectif, c'est d'en faire 2,5 millions en 2025 et d'accroître la profitabilité, pardon, sur chacun de ces véhicules-là pour être rentable en 2025.
Ouais, là, c'est sûr qu'on a d'autres usines, une en Chine, il y en a une à Berlin, en banlieue de Berlin.
Il va y avoir une nouvelle usine de batterie à Berlin aussi, qui va être la plus grosse usine au monde.
Donc,
beaucoup d'investissements de ce côté-là. Fait
ouais.
Il commence à avoir du sérieux derrière, disons, cette enflure boursière-là de Tesla. Et Elon Musk est probablement en train de gagner son pari parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutaient du succès de cette opération-là.
Les gens disaient faut juste qu'il tienne assez longtemps.
Exact.
Puis il est en train de tenir assez longtemps. Là. C'est un pari extrêmement osé, mais ça n'a pas l'air à trop faire peur au bonhomme, ça.
Ben, il est assez diversifié quand même. Il y a SpaceX, il y a d'autres choses. Je suis pas inquiet pour lui.
Il envoie des hommes dans l'espace. Pour le
ben,
vrai.
Écoute, il veut se rendre sur Mars.
C'est la première compagnie privée au monde à envoyer du monde dans l'espace, quand même.
D'ailleurs, il y a une Tesla dans l'espace en ce moment.
Oui, qui se promène, qui tourne quelque part, effectivement. On va passer de Tesla à GM. On a eu 7 millions de rappels qui ont été lancés cette semaine du côté de GM.
Beaucoup.
En fait, c'est la fameuse saga des coussins gonflables Takata. Écoute, on ne sait plus quand est-ce que ça va finir.
On n'en sortira jamais.
Ça a commencé en 2014. Imagine, ça fait 6 ans. On a dépassé les 100 millions de véhicules rappelés sur la planète. Et là, le rappel dont on parle aujourd'hui avait déjà été signalé il y a 4 ans, sauf que GM est allé en cours, s'est battu pour pas les rappeler.
Ah oui.
Et c'est finalement le NHTSA, le National Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis, qui a tranché puis qui a dit non, vous allez rappeler ces véhicules-là. Le problème est toujours le même là, sur tous les modèles. C'est l'instrument, en fait, le composé chimique qu'on a utilisé, qui est, en fait, fautif, qui prend soit un peu d'humidité ou qui ne déclenche pas. Fait que vous avez deux situations. Il va déclencher pour absolument rien, il va déclencher trop fort ou il déclenchera pas. Il y a déjà 18 décès confirmés juste aux États-Unis. Ouf. Suite à ça, GM ne fait pas partie de la liste. C'est Honda qui a le gros lot, là. 15 personnes qui ont été décédées au volant de Honda.
C'est majeur, ça.
Deux chez Ford, un chez BMW. Là, c'est la liste jusqu'à ce jour. Beaucoup de blessés, on en parle moins, des gens qui ont eu des lésions, parce que le coussin éclate tellement fort qu'il y a des morceaux de métal qui partent, qui peuvent vous lacérer le visage et tout ça. Donc, c'est un problème sérieux. GM avait déposé 4 recours depuis 2016 pour tenter de renverser la décision. Finalement, ils vont faire les rappels. C'est des véhicules 2007 à 2014 dans les gros camions. Là, on parle de Silverado, Sierra Suburban, Tahoe, Yukon, Escalade. Ça va coûter au bas mot 1,5 milliard de dollars canadiens là, pour les rappels. Et on dit que c'est pas encore tout à fait fini. Il pourrait en avoir d'autres. Dans un autre ordre d'idée, on va chez Volkswagen. On a annoncé la fin de la Passat pour 2023. Là, c'est officiel. On savait pas trop jusqu'à quand le modèle allait durer. Quand l'Arteon est arrivé, on s'est dit, Arteon, Passat, y a-t-il de la place pour ces deux modèles-là en même temps? Parce que on s'entend que c'est pas mal le même format. Et on sait que les ventes de berlines sont à la baisse en continu depuis des années. Fait que là, on a finalement décidé de dire, fini, 2023,
c'est une super grosse perte, me semble.
C'est pas une perte. Écoute, les ventes ont baissé depuis quelques années, là, de 77%.
Ah, bon, ben voilà.
On a vendu en 2019, là, c'est la dernière année qu'on a de vente complète au Canada, 672 unités de la Passat, là. J'ai vérifié dans mes chiffres, en 2013-2014, on en vendait un peu plus de 3000 par année, là. Fait que c'est donné une idée, là, que ça a littéralement
plongé. C'est indicateur de tout le segment aussi, en fait.
C'est indicateur de tout le segment, puis je pense que ce qui a peut-être convaincu Volkswagen, c'est que la voiture est fabriquée à Chattanooga, au Tennessee, endroit où on fabrique aussi l'Atlas, la Atlas Crossport, et où on va fabriquer la ID4. Alors, on est en train d'agrandir l'usine, de la réoutiller pour accepter la ID4. On va commencer à fabriquer la ID4 avec la Passat qui va toujours être là. Mais en 2022, bonjour la Passat, puis le ID4 va prendre toute la place parce que je pense que c'est l'avenir. Est-ce qu'on va s'en ennuyer? Commentaire que j'ai eu sur Internet. Pas sûr qu'on va s'en ennuyer beaucoup.
Il y a eu des commentaires là-dessus.
Non, pas méchants.
Est-ce qu'on va dire ID4 ou ID4? Moi, c'est ça que je veux savoir.
Bonne question.
C'est le golf, ça
marche. Peux-tu le prononcer en allemand comme fou?
On pourrait on va consulter notre
expert.
On
va regarder. C'est sûr qu'on peut franciser la ID4. ID4, ID comme dans ID, ID, en tout cas, bref, c'est la ID4 qu'on va voir
l'été prochain, non?
Ça arrive quelque part par là. Alors, ça termine notre segment actualité. On prend une petite pause et au retour, on parle avec Jared Pellate de chez Genesis Canada.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette.
Voilà, nous sommes de retour. C'est la portion invitée de l'émission. Mais juste avant, je tiens à vous dire que Ça tient la route peut être écouté en ligne sur vos plateformes d'écoute préférées telles que Spotify, Apple, Google et surtout sur le site du 98.5 FM dans la section balado. Autour du jeudi à peu près, on va vous installer l'émission de la semaine. Et si vous voulez nous écouter en ondes, le dimanche soir vers 17h, on est sur les ondes du 98.5 FM. Et là, on est en train de travailler, on va peut-être avoir des petits extras, parce qu'en balado, on est un peu moins imposé dans le temps. Puis ça se peut des fois, si on n'a pas le temps de finir un essai routier, s'il nous reste quelques questions, on vous mettra ça en bonus.
Les fameuses questions.
Les fameuses questions que je garde toutes les semaines depuis un mois et demi. Qu'on n'a jamais le temps de poser. Alors, on va mettre un petit extra dans le balado. Alors, vous en aurez un petit peu plus à écouter. Pour le moment, on se tourne du côté de Toronto, évidemment, via téléphone, avec notre prochain invité qui est, en fait, le responsable des relations publiques pour Genesis Canada. Il s'agit de Jared Pellate. Bonjour, Jared.
Bonjour, Benoît.
Alors, ça va très bien. Alors, faut expliquer d'abord, Jared, que tu es Québécois de naissance, que tu as resté au Québec une bonne partie de ta vie, puis tu as décidé que c'était peut-être plus beau d'aller travailler en Ontario, ou tu nous as quittés, non?
Non, true. Mais je dois m'excuser d'avance pour mon français. Oui, en réalité, je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, Mais pour l'instant, je travaille à Toronto, alors c'est pas pratique à utiliser le français chaque journée. Alors oui, mes excuses et merci d'avoir m'invité pour vous joindre aujourd'hui.
Mais c'est correct, tu auras une promotion puis tu vas revenir à Montréal bientôt.
C'est ça, exact. Jared, le Genesis est une compagnie qui est assez récente sur le marché puis qui présente aussi un modèle d'affaires un peu différent des autres constructeurs automobiles. Dans un premier temps, parle-nous un peu de cette différence de Genesis vis-à-vis des autres constructeurs automobiles.
Oui, et c'est une grande différence, particulièrement du côté de l'expérience client. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, pour la majorité des fabricants au Canada, il y a le fabricant qui produit les automobiles et il y a les concessionnaires qui les vendent aux consommateurs. Cependant, pour Genesis, nous n'avons pas de concessionnaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Genesis Canada, quand vous achetez un véhicule Genesis au Québec, au Canada, vous achetez le véhicule directement du fabricant. Sauf que notre modèle d'affaires est un peu différent des autres qui font ce type de vente directe. Nous sommes en partenariat avec des groupes concessionnaires partout au pays pour distribuer ces véhicules pour vous. Alors, vous avez cette expertise locale dans votre marché, dans votre ville, où vous pouvez acheter des véhicules Genesis.
OK, donc si on explique la chose simplement, Genesis, c'est la division de luxe de la compagnie Hyundai. Donc, les gens oui. vont faire toutes les opérations d'achat d'un véhicule en ligne. Et une fois que la transaction est terminée, on prend possession de son véhicule pour le moment là, chez un concessionnaire Hyundai. Est-ce que je me trompe?
Un petit peu. Alors, okay. Ce qui se passe, c'est que pour le moment, nous avons un système que nous appelons Genesis à domicile. Alors, qu'est-ce que ça veut okay. dire? Ça veut dire que vous pouvez configurer votre véhicule en ligne sur notre site web genesis.ca. Vous pouvez faire des enquêtes en ligne, vous pouvez parler avec votre directeur de l'expérience Genesis locale dans votre marché qui peut vous servir. Et pour tout ce que vous avez besoin, pour un essai routier, pour l'achat, pour la livraison de votre véhicule et pour les entretiens, nous nous déplaçons pour vous. Alors, nous venons chez vous, à votre résidence, votre bureau, pour vous amener le véhicule pour l'essai routier, par exemple. Et ce que ça donne, c'est que avec cette plateforme en ligne Genesis à domicile, nous pouvons contrôler, par exemple, les prix. Alors, il n'y a pas besoin des négociations de prix. Si vous achetez le véhicule à Montréal, à Québec, en Estrie, le prix est fixe. C'est juste un parti du programme Genesis à domicile.
Si j'ai bien compris, donc, si on veut essayer les véhicules avant de faire un achat, ou même si on ne veut pas faire un achat, mais on veut essayer le véhicule, vous venez porter le véhicule à la maison pour faire l'essai?
Oui, effectivement.
Wow!
C'est intéressant.
Ça vaut la
c'est
peine.
Intéressant. Ben oui. Donc, évidemment, vous allez dans une deuxième phase, on pourrait l'appeler comme ça, installer un peu partout au Canada des concessions. Alors, des endroits où il y aura une boutique, où il y aura des véhicules, où il y aura des gens de la compagnie. Parlez-nous un peu de cette deuxième phase et comment elle va être différente d'une concession comme on les connaît en ce moment.
Oui. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous voyons qu'il y a des gens qui aiment bien le système à domicile. Mais il y a aussi beaucoup de consommateurs qui veulent se déplacer dans un magasin pour voir, disons, plusieurs véhicules en même temps. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui cherche un VUS, OK, est-ce que je veux avoir le petit, le grand, alors je veux voir la comparaison entre les deux. Alors ça, même si on commence notre parcours en ligne chez Genesis.ca avec le système à domicile, peut-être que je veux me déplacer en magasin pour voir plus de produits, pour voir plus d'options. Alors, le modèle d'affaires Genesis maintenant va être un modèle omnicanal avec Genesis à domicile qui continue, mais aussi avec des centres d'expérience Genesis de vente au détail qui vont être construits partout au pays. Alors, pour l'instant, au Québec, il y a des boutiques qui existent. Par exemple, il y a la boutique Genesis au Carrefour Laval. Il y en a aussi la boutique Genesis Estrie à Sherbrooke et Genesis de Québec aux villes de Québec. Alors, mais dans le futur, bientôt dans les 12 à 24 prochains mois, nous allons commencer à construire des grand centre d'expérience Genesis partout au Québec, à Montréal, à Québec okay. et en Estrie.
OK. Donc, ça sera... Mais c'est pas, ça fonctionne pas exactement sur le même principe, c'est-à-dire que ça va être comme une grande boutique, mais ça sera pas une concession automobile comme on les connaît en ce moment. Là.
Oui, effectivement. Alors, le modèle d'affaires reste la même. Alors, ce okay. que ça veut dire, c'est que vous pouvez commencer... disons, en magasin, à configurer votre véhicule. Et ces centres d'expérience Genesis vont utiliser le système, la plateforme Genesis à domicile en ligne, même en magasin. Alors, si vous commencez en magasin, vous pouvez terminer votre achat à la maison et nous pouvons livrer votre véhicule à domicile, même si vous avez commencé en magasin. Okay. Et vice-versa aussi.
Et il n'y aura pas de véhicules nécessairement. Est-ce qu'il va y avoir des véhicules en inventaire ou ça va simplement être des véhicules démonstrateurs pour un essai routier, par exemple?
Il y aura un système un peu hybride dans le sens que les modèles les plus populaires, les combinaisons, les versions, les couleurs les plus populaires vont être disponibles pour un achat ou une location un peu plus immédiate. Mais avec le système Genesis à domicile, nous avons un inventaire national centralisé. Alors, un consommateur peut choisir n'importe quelle couleur, version, etc., comme le convient, sans extra frais, sans pression, parce que le prix et l'inventaire est contrôlé au niveau national par Genesis Motors Canada.
OK, donc c'est Genesis qui garde la mainmise et le contrôle de l'inventaire des véhicules qui vont être distribués à travers le pays.
Oui, exactement.
OK, bon, c'est correct, j'avais bien compris.
Moi, je veux savoir quels sont les modèles qu'il va avoir dans ces beaux grands centres
d'expérience. Ben oui, voilà, parce que là, on connaît un peu Genesis. Je pense que les gens connaissent la G80, d'ailleurs, qu'on a vu, qui change cette année, puis qui existait à l'époque chez Hyundai. Mais parle-nous un peu du reste de l'alignement chez Genesis, Jared Palat.
Oui, alors tout a commencé chez Genesis avec les berlines. Alors maintenant, nous avons complété notre gamme de berlines avec la G70, notre véhicule, notre berline de sport compact qui, il faut mentionner, a gagné plusieurs prix, incluant Motor Trend Car of the Year et la voiture de l'année nord-américaine en 2019. Il y a aussi notre berline exécutive intermédiaire, la G80, ainsi que notre berline pleine grandeur G90. Ensuite, maintenant, cette année, nous lançons notre premier VUS, le GV80. C'est un véhicule qui est absolument spectaculaire avec un beau design plusieurs technologies.
On a eu l'occasion de l'essayer. Je faisais partie des gens qui l'ont essayé il y a quelques semaines du côté de l'Ontario. Et effectivement, pour la finition, vous avez mis le paquet là. C'est un véhicule qui est extrêmement impressionnant de l'intérieur. La qualité des cuirs, la qualité de la finition, on n'a rien à envier à ce qui se fait sur le marché en ce moment.
Un look de l'extérieur aussi.
Oui. Alors, donc ça, c'est le premier utilitaire, mais il va en avoir d'autres là.
Oui, ce n'est que le début pour Genesis. Alors, je peux vous annoncer aujourd'hui qu'il y a un autre VUS qui s'en vient l'an prochain qui s'appelle GV70. Alors, je ne veux pas trop partager de détails parce que ça sera encore un petit bout que nous devons attendre pour lancer ce produit-là, mais c'est un VUS qui va être un peu plus compact et un peu plus sportif aussi.
OK. Puis est-ce qu'on peut penser, parce que là, je regardais dans les produits comme le GV80, c'est des moteurs à essence conventionnels, 4 et 6 cylindres. Est-ce qu'il y a un avenir hybride branchable, électrique du côté de chez Genesis?
Ce que nous avons déjà dévoilé, et c'était au Salon de l'Auto de Montréal cette année, c'est que l'an prochain, nous allons commercialiser notre premier véhicule électrique, entièrement électrique. Alors, stay tuned parce que ça s'en vient bientôt, l'an prochain.
Bon, ben écoute, un grand merci, Jared, pour ton temps. Je pense que les gens maintenant connaissent un peu mieux la compagnie Genesis.
Genesis qui fait une entrée progressive dans le marché.
Absolument, puis je
comme
pense
le,
que...
Comme le rock.
Comme le
rock,
oui.
C'est un gang musical. Oui. Écoute, des fois, il faut en faire.
Merci beaucoup, Jared,
merci,
et
Jared.
On se tient au courant. Bye-bye.
Merci Benoît, merci Alain.
Alors voilà, c'était Jared Pellat qui est responsable des relations publiques de Genesis Motor North America, parce que ce que vous savez pas et qu'il nous a dit lors du lancement, c'est que Jared va maintenant travailler bientôt des États-Unis.
Ah.
Donc va s'occuper de l'Amérique du Nord, du Canada et des États-Unis, mais va rester en contact avec nous. Alors on va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Ça tient la route, là c'est vrai.
Avec des
on
bons
va
pneus.
Voir si ça tient la route. Oui, oui, c'est effectivement. Si vous avez des questions, je vous rappelle que nous vous invitons à les faire parvenir à l'adresse balado avec un S à 98.5fm.ca. Puis là, premier juré, j'ai quelques questions de côté que je vais prendre à la fin de l'émission. Je les ai amenées.
On a le temps, là.
Oui, oui, là, on a le temps. Mm-hmm. Du côté balado, on n'est pas dans contrainte de temps. Alors, Alain, ton essai routier, tu m'as parlé de Ford Escape hybride tantôt.
Oui, ben oui. Ben, tu sais, l'Escape hybride, quand même, existe depuis plusieurs années.
Ah oui, ben, je m'arrête.
Ça fait longtemps, là, on s'entend. Il
début
était
des
vert,
années 2000.
La première,
oh,
tu sais, les premiers modèles. C'était pas
avait,
super beau, en tout cas, ce qui est son
on goût. Avait essayé ça au Utah. Hey, je me rappelle du lancement, je pense. On avait été. Non, ça, c'était avec le Mazda, l'équivalent chez Mazda.
Ah, qui était le Tribute.
Oui, le Tribute.
Le Tribute.
C'est ça.
Ben, écoute, l'Escape, ça a toujours été un petit VUS populaire. L'Escape hybride, relativement efficace. Avec la technologie quand même assez modeste en termes d'électrification, là. Cet automne ou cet hiver ou peut-être le printemps prochain, parce qu'on ne sait pas trop, il y a des délais, mais Ford devrait aussi commercialiser un Escape hybride branchable qui va évidemment avoir une portion électrique pas mal plus costaude.
Ben, qu'on annonce à quoi? 65 km, je pense, d'autonomie ou quelque chose comme ça.
Qui est un peu le standard, entre le minimum acceptable pour un hybride branchable.
Oui, mais il y en a peu qui se rendent là. Il y a le RAV4 Prime qui est là, le Clarity que je mets dans les VUS, mais je pense que c'est une bonne idée parce que là, pour le moment, le RAV4 Prime, si vous en voulez un, bonne chance. La liste d'attente est assez longue. Alors, si Ford amène un modèle équivalent en termes d'autonomie, puis qu'ils peuvent le rendre disponible, ça peut être fort intéressant.
Ben, il était supposé arriver d'un instant à l'autre, mais je pense qu'il y a eu des problèmes de batterie en Europe.
Il y a un peu
Europe,
de retard,
ils ont pris,
effectivement.
Le temps d'étudier la question, ce qui est tout à fait correct. Mais en attendant, on a droit à la version classique de l'hybride réalisée à partir de la plus récente version de ce VUS-là, là, qui est quand même qui a été renouvelé.
Qui est le modèle le plus vendu de sa catégorie, soit dit en passant, avec le RAV4. C'est vraiment, ça s'échange ça d'une année à l'autre. Là. C'est 1-2-2-1, là, mais c'est vraiment des modèles populaires.
Il y a trois choix de moteurs. Évidemment, dans le cas de l'hybride, il y en a juste un. C'est un 4 cylindres de 2,5 litres conçu exprès pour être jumelé à une motorisation électrique.
Ouais.
C'est pas une grosse mécanique électrique. On parle de 1,4 kWh de capacité.
C'est
donc
pas
c'est
beaucoup,
pas.
Non.
C'est pas exactement. Il n'y a pas une très grande autonomie électrique non
c'est
plus.
C'est pas une batterie D, ça, non?
Il y en a quatre. C'est un Ghetto Blaster. Exactement. Écoute, ça ajoute un petit peu de muscle dans l'accélération. Ça récupère surtout l'énergie en trop, là, qui est dégagé quand on freine ou à vitesse de croisière. Tout ça est rattaché ensemble par une boîte de rapport que t'aimes beaucoup, une CVT, ton genre de boîte de rapport.
Oui, je sais.
Qui a un rôle dans ce véhicule-là qui est un peu d'essayer de faire oublier le changement de temps en temps, tu as le moteur électrique, de temps en temps, tu as le moteur à essence, temps en temps, tu as les deux.
Non, puis considérant la vocation du véhicule, c'est correct. Moi, quand on m'amène une CVT,
pour la CVT,
modèle...
Ouais.
Bon, j'oserais pas dire sport parce que j'ai jamais vu ça dans un modèle réellement sport, mais dans un modèle, disons, qui a un peu plus de chien, puis qu'on amène ça, c'est monsieur, ça. C'est déprimant, là. C'est un peu déprimant.
J'ai jamais vu un avion décoller avec une boîte, tu sais, 6 rapports, mettons. c'est l'équivalent d'une CVT qu'il y a là-dedans. C'est un peu ça le principe d'une CVT. Mais je comprends qu'effectivement, c'est pas aussi entraînant qu'une boîte traditionnelle.
Non, effectivement.
Mais dans un véhicule comme celui-là, ça fait tout plein de sens.
Oui, la vocation va avec le véhicule, c'est clair.
De toute façon, c'est pas un véhicule sportif, c'est un véhicule très utilitaire.
Oui.
Plus que le V et le S, c'est vraiment le U qui est important. Et au bout du compte, avec tout ça, on a une consommation moyenne d'environ, bon, Ford 10,5 litres au 100 km au combiné.
OK, t'as fait combien, toi?
Je suis plus proche des 8 litres au 100.
OK, je t'ai pour dire, parce que Ford sont extrêmement optimistes habituellement dans leur, ouais, dans leur chiffre, là. Tu sais, moi, j'ai essayé, tu parles d'hybride, le F-150 hybride.
Oui.
Que Ford annonce à 9,8.
Ça, je m'attends à être déçu de celui-là, par contre.
Non, il va très bien. Mm-hmm. Il va très bien, mais là, on a un moteur qui est plus musclé. Là, on a 430 chevaux, puis tu as 570 livres-pieds de couple. Alors, tu as une machine qui marche, là.
Mais dans le cas de F-150, ça a été réglé plus pour avoir un bonus de puissance que d'avoir une économie vraiment de
consommation. Oui, mais j'ai quand même terminé à 11 et des poussières. Considérant le poids, la taille et la machine, là, mm-hmm, c'est quand même bon. Mais on n'est pas au 9,8 que Ford annonce exactement. Ouais.
Ben, c'est souvent comme ça. En fait, faut, je pense que c'est une règle du pouce, comme on dit en bon français.
Oui.
On se fie à la cote sur en ville, qui est toujours plus élevée. Ça donne une idée de la moyenne réelle qu'on
va
obtenir.
C'est pas mal toujours ça. Prenez la plus haute des deux, puis vous allez être proche de la moyenne.
Exact. Dans le cas du Escape Hybrid, bon, écoute, 7, 8 litres au 100, c'est correct, mais pour un véhicule de 37 000 $ c'est juste pas assez.
Ouais.
Il faudrait faire mieux que ça. Sérieusement, il y a des véhicules, le Mazda CX-30 dont on a parlé, le CX-3, ces véhicules-là sont un petit peu plus petits, mais ils font 5, 6 litres sans aucun effort. Il n'y a aucune technologie électrique là-dedans.
Mais là, penses-tu que Ford s'est gardé une petite gêne, vu qu'on va avoir un hybride branchable, pour garder une espèce de pas de fossé, mais d'espace entre l'hybride régulier et l'hybride branchable?
Ça revient à la définition de véhicule hybride, qui était toujours perçue comme une technologie temporaire. Hein. C'est une technologie de transition vers
les véhicules
électriques.
En fait, il y a plusieurs constructeurs qui ont carrément arrêté d'en faire.
C'était là, présenté comme ça, oui.
Juste dans l'hybride branchable ou dans le 100% électrique.
D'ailleurs, question à faire pour, si vous cherchez des débats là, pour le temps des fêtes, dans une de vos deux rencontres familiales que vous avez le droit de faire, demandez-vous, est-ce qu'on devrait encore subventionner les plugins, les hybrides branchables?
Ah, ça, c'est un débat, ça.
Ça, c'est un autre genre de question à avoir.
Et combien ça coûte et combien ça rapporte?
Est-ce
que ça donne?
Est-ce que ça pollue autant que ça ou aussi peu que c'est annoncé?
Exact.
Question de débat. Cela dit, pour revenir à l'Escape Hybride, effectivement, c'est un véhicule qui fait beaucoup de compromis. Hein. C'est pas un véhicule très sportif. C'est un véhicule qui est quand même assez confortable, par contre.
Ouais.
Une famille de 4 personnes peut y prendre place, aller faire des courses au
4,
Costco.
Pas 5.
Non, pas 5, 4. Non. Peut-être pas acheter un gros téléviseur, là, mais aller au Costco ou même chez Ikea, par exemple, des endroits où tu rentres des grosses boîtes, et revenir sans se sentir trop serré.
Mais la vraie question, t'en achèteras un ou pas, toi?
Moi, ça?
Oui.
Non, les hybrides, je pense que c'est fini.
OK.
Mais c'est un véhicule qui existe depuis un certain temps. C'est une nouvelle version de véhicule populaire.
C'était une technologie intermédiaire.
C'est une transition.
Qui ne devrait plus être là. Exact. Parce que on sait comment faire des hybrides branchables efficaces aujourd'hui, puis je pense qu'on devrait se concentrer là-dessus.
Mais je veux dire, une qualité du Ford Escape hybride, c'est son interface multimédia Sync. Qui est la meilleure version de cette interface-là.
Oui, elle était rendue... moi, j'avais le Sync 4 là, dans le F-150. Ouais. Et honnêtement, là on est à la bonne place. Autant le premier Sync m'a fait rager.
Les trois premiers, écoute, c'était pas drôle. Le
troisième, t'as moins pire. Là. Mais mettons que les deux premiers, t'as pénible. Là. Mais le 4, on a travaillé fort.
Bref, longue histoire courte, vivement l'Escape hybride branchable. Quand il va arriver... Ça va probablement être un véhicule comme le RAV4 Prime qui va être très en demande. Donc,
oui, parce qu'il y a une grosse demande pour ça. Ben, on va s'en reparler à ce moment-là. Moi, de mon côté, je suis un petit peu ailleurs cette semaine. Toyota Supra que j'ai finalement essayé. Je me souviens encore de mon premier essai de Supra en 1993.
Tu l'as essayé avec des pneus d'hiver.
J'ai essayé avec des pneus d'hiver.
Ça, c'est particulier, là.
C'est particulier, mais malgré le fait qu'il y avait des pneus d'hiver. Bon, évidemment, j'ai pas essayé la tenue de route comme j'aurais pu le faire sur des pneus d'été bien chaussés au mois de juillet. Mais cela dit, c'est une machine qui fonctionne extrêmement bien, confortable. Moins épeurant que l'autre Supra des années 90 qui avait, moi j'avais eu le double turbo là avec le moteur de 320 chevaux
à l'époque. C'était monstrueux dans ce temps-là.
Je dirais que c'est une voiture de performance en ligne droite, alors que là on a une voiture performante, point. Ça tient bien la route. C'est sûr que les puristes vont dire, bah, c'est une BM. Bon, oui, vous avez partiellement raison, c'est un moteur BM, c'est un châssis que les deux compagnies ont partagé. Mais pour des raisons de gros bon sens, se lancer dans l'aventure d'une voiture sport aujourd'hui, non seulement c'est très coûteux, mais les résultats sont extrêmement incertains parce que c'est des catégories de voitures. Regardez, là, les compagnies enlèvent les voitures de la route une après
c'est
l'autre.
C'est un peu appelé à disparaître au profit de voitures électriques, des choses comme ça.
Ben, probablement. Tu sais, au moment où on se parle, Porsche a déjà dessiné sa Boxster 100% électrique. Là. Mm-hmm. Puis il est fort possible, on sait qu'il va y avoir une Boxster électrique. Est-ce qu'on va être juste électrique ou on va faire une électrique et une à combustion interne? Ça, c'est pas encore la réponse, on l'a pas.
Mais on sait qu'il va y avoir une turbo.
Mais on, oui.
Même électrique.
Même électrique. Mais la Supra, c'est une voiture qui est beaucoup plus civilisée quoi, qu'avant. Mm-hmm. Puis plus puissante. Là, cette année, on a ramené la puissance à l'équivalent de ce qu'il y a chez BMW, 382 chevaux. D'ailleurs, c'est le même moteur. Là. Alors, pourquoi on en avait moins? Peut-être une entente pour la première année entre les deux. On voulait laisser la Z4 un petit peu sur le devant.
Il n'y avait pas de raison concrète de limiter.
Il n'y avait pas de raison concrète. Là, on l'a ramené. Et en mode sport, je vous garantis que ça déménage. Là. Mm-hmm. Il y a vraiment une bonne différence. Bon, il n'y a pas de boîte manuelle. Ça, j'avoue que dans une voiture de ce type-là, c'est un manque.
Ben, la BMW a la même approche, en fait.
Oui, oui, ben en fait, c'est exactement la même chose. Mm-hmm. C'est une 8 vitesses automatique qui va au demeurant extrêmement bien. Mais j'avoue que j'aurais aimé ça, avoir une troisième pédale puis changer un peu de vitesse. C'est exactement le genre de voiture pour ça. Cela dit, la puissance est bonne. 4,7 secondes pour un 0-100 que j'ai pas testé parce que j'avais pas les conditions pour le faire, mais j'ai consulté plusieurs différents endroits et tout le monde est à 4,6, 4,7, 4,7, 4,8. Alors 4,7, c'est une bonne moyenne. Il y a l'addition cette année d'une version 4 cylindres 2 litres turbo de 255 chevaux pour ceux qui voudraient un petit peu baisser le prix.
Ah oui.
Parce que c'est quand même la version que j'avais qui avait quand même plusieurs options, c'est à 70 000 $, donc c'est pas on parle pas de
conduire, ouais.
Mais tu sais, il faut la regarder de deux façons. 70 000, c'est beaucoup moins qu'une Boxster qui à équipement égal va vous coûter 92, 95. Mais par contre, une Corvette va vous coûter le même prix avec un V8, beaucoup plus de puissance, puis un exotisme plus poussé.
Faut être un peu nostalgique de la Supra,
oui,
d'une certaine
façon. Mais je comprends que la vente ne soit pas facile parce qu'on est un peu assis entre deux chaises. Et le confort est correct, mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu d'âme. C'est-à-dire que le fait de la rendre plus facile à conduire, plus confortable, ben on la rend aussi moins épeurante.
Un peu plus banale.
Passez-moi le terme.
Ouais.
Et il faudrait trouver le moyen de rajouter un petit peu d'âme, un petit peu de folie, parce que t'achètes une Supra aussi pour avoir un peu de plaisir. Et le plaisir vient, mais à plus haut régime, alors que tu commences à jouer les points sur ton permis, c'est moins drôle. Mm-hmm. Mais cela dit, c'est une sportive qu'on peut utiliser au quotidien. La puissance est bonne, le confort, je vous dirais, traverser le Canada, peut-être pas, mais pour les trajets d'une heure et demie, deux heures, il y a suffisamment de place pour le faire. Mm-hmm. Je vous dirais aussi que la technologie est bonne, mais est un petit peu envahissante. C'est le propre des produits Toyota. Toyota, les Asiatiques en général ont une technologie intrusive. Quand on, exemple, si on rouvre la porte, on peut pas changer les rapports. Moi, je reculais, je regardais où j'allais.
Ah oui.
Je referme la porte. Et le système, le régulateur de vitesse adaptatif, de la seconde qu'il y a un véhicule qui arrive dans le champ de vision, par exemple, quelqu'un sur l'autoroute qui passe devant vous, ça donne un bon coup. Ça surprend la première fois. Donc, il manque un petit peu de raffinement à ce chapitre-là. Les freins sont extrêmement bons. Il faut s'habituer à moduler. Parce que si vous appuyez fermement, ça peut être un peu sec. Mais je pense que la Supra tient ses promesses. Est puissante, agréable, facile à conduire, assez confortable pour être conduite tous les jours. Bon, évidemment, l'habitacle est pas très grand. C'est un strict deux places. Il y a pas beaucoup de rangement. Il y a un hayon derrière qui donne un certain espace, mais pas autant, par exemple, qu'une Boxster ou une Cayman qui ont deux coffres, un à l'avant, un à l'arrière. La nouvelle Corvette a beaucoup moins d'espace que l'ancienne. L'ancienne Corvette, là, on pouvait mettre deux sacs de golf en arrière de ça. Là. C'était immense pour une voiture de ce calibre-là. Il y en a moins dans le nouveau. Je dirais que ça se compare probablement assez bien avec ce qu'on offre pour la Supra. Donc, il y en a pas beaucoup sur la route. Vous verrez pas énormément de Supra. C'est sûr que c'est une catégorie dont la pointe de tarte est très petite,
ouais.
Mais cela dit, c'est un véhicule qui demeure très intéressant. Je pense qu'il va juste falloir travailler certains aspects au niveau de l'âme qu'on donne, de la personnalité au véhicule.
Je ne sais pas si je peux te poser cette question-là, mais j'étais un petit peu déçu en embarquant dans la voiture, en voyant l'interface très BMW du système multimédia. Je ne sais pas, les gens qui achètent une Supra, est-ce qu'ils font la distinction ou c'est peu importe?
Pas beaucoup. C'est pas ça qui va énerver, c'est plus l'origine du moteur qui va les énerver. Mm-hmm. Moi, les gens à qui j'ai parlé, c'est pas parce qu'ils détestent BMW, mais Toyota faisait des 6 en ligne, ils en font plus.
Il y a une
tradition.
Ben
et
oui.
Ça, on le regrette un peu. Alors, ça complète nos essais aussi. Merci, Alain. La semaine prochaine, as-tu déjà une petite idée de quoi tu vas nous parler? Là?
Ben, j'avais le Toyota Tundra cette semaine, puis il a neigé, donc ça tombait bien.
Ben oui.
Mais c'est pas exactement la camionnette la plus haute en ville.
Ben, justement, t'as un bon choix parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce que moi aussi je l'ai eu. Puis moi, j'ai roulé le Kia K5. Le remplacement de l'Optima.
Ah oui.
Donc on va parler de ça la semaine prochaine. Et là, le temps qui nous reste, je vous ai promis des questions. On a des questions pour vous. Alors j'ai Michel Rouble qui m'a écrit. Salut Benoît, je voudrais faire l'acquisition d'un Rogue SL Platinum 2020 pour le prix et l'équipement. Le modèle a 4000 km. Est-ce que c'est un Citroën? Bon. C'est pas un Citroën, mais dépendamment de votre budget, Michel, si vous avez quelques sous de plus, le 2021 est drôlement plus intéressant. On a gardé le nom Rogue, là, mais c'est vraiment tout.
Ouais.
C'est une nouvelle plateforme. On a refait le moteur. Il y a plus d'espace. C'est plus silencieux, mieux sonorisé, mieux fait, plus agréable à conduire et tout et tout. Moi, je vous dirais, là,
ça prend vraiment un bon prix pour y aller pour 2020.
Ah, faut qu'on vous le donne, là, mm-hmm. littéralement. Puis je le sais que Nissan fait des bons prix en ce moment parce que justement, les 2020 qui traînent, on sent ça par la grande porte. Vous avez probablement un bon prix. Mais je me dis, si vous avez un budget pour un SL Platinum 2020, là, allez donc voir un 2021. Vous allez être drôlement mieux servi. Autre question, André Lepage, qui me demande, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir plus de puissance lorsqu'on emploie le mode sport ou au moins face au mode économie? J'ai un ami qui me dit que c'est la révolution, ça n'augmente pas dans mon RAV4. Oui, bonne sensation.
Okay. Alors, fait d'être dans un RAV4 en partant crée une sensation de pas trop de vitesse. Ouais.
Alors, le mode sport, ça va dépendre qu'est-ce que vous conduisez. Parce que ça n'agit pas de la même façon dans tous les véhicules. Si vous avez un véhicule sport, là, mettons, on parle d'une Corvette, on parlait de la Supra.
Ouais.
La Supra, l'exemple est probant parce qu'il y a une grosse différence.
La plupart des véhicules de luxe ont plus de réglages ou modifient plus de réglages en mode sport.
Puis il y a des modes aussi, il y a des véhicules qu'on a le mode économie, normal, sport, sport plus, race, track,
décollage pour la lune,
avec la broche, bon, etc. Mais en général, ça joue sur trois choses. La direction, la suspension et le moteur. Donc, certains vont jouer uniquement...
La transmission qui fait partie du...
La transmission, vos rapports vont rester plus longtemps en haut régime et vont monter plus haut en régime quand vous accélérez. Mm-hmm. Il y en a d'autres que si vous avez, par exemple, une suspension pneumatique sur les produits européens,
ça fait une différence.
La suspension pneumatique va se raidir. Souvent même, le véhicule va s'abaisser de quelques millimètres. Donc, vous voyez une bonne différence. Sur un RAV4, là, la seule différence, vous allez voir probablement, c'est le fait que vous allez changer vos rapports à plus haut régime, mais... Vous n'avez pas plus de puissance. Sur aucune de ces machines-là, peu importe laquelle, vous n'avez pas plus de puissance.
Mm-hmm.
C'est souvent simplement les paramètres qui vont changer.
Ouais.
Mais sur des modèles comme des VUS, généralement, on voit pas une grosse...
Le changement de la transmission, c'est comme le régime va plus près de la, tu sais, de
l'apex
de la puissance ou du couple. C'est là où on a l'impression que c'est plus sportif parce qu'on a plus de puissance disponible, mais c'est pas, ça change pas les paramètres de la voiture.
Non. C'est des paramètres, là, qui sont quand même assez, de base, surtout sur un véhicule comme le RAV4. Autre question, ça va être la dernière pour aujourd'hui. Bonjour, c'est Jean-Guy Chagnon qui nous écrit. J'ai une Cadillac ELR 2014 et je dois remiser le véhicule pour la période hivernale. Est-ce que je dois installer un chargeur intelligent sur la batterie ou laisser la voiture branchée via le chargeur de la batterie, le 400 volts, ou les deux? C'est la première année que j'ai la voiture. Bon, généralement, parce qu'une ELR, c'est comme...
La Volt haut de gamme.
Voilà. C'est la Volt, mais utilisée du côté de Cadillac. C'est le même groupe.
Mm-hmm.
Moi, ce qu'on fait habituellement, vous avez des chargeurs intelligents. D'ailleurs, Cadillac en vent. Là. Moi, c'est ce que je conseille aux gens. Ça prend soin de tout. Vous le laissez brancher. Vous gardez une charge minimale dans votre véhicule. De cette façon-là, vos systèmes tombent pas au point mort le printemps venu.
Ouais.
Mais renseignez-vous auprès du concessionnaire. Chez Cadillac, on a tous ces systèmes-là pour
vous. Faut pas laisser la voiture être à plat. La gestion de la batterie est un petit peu capricieuse, mais ces contrôleurs-là sont là. Il y a des systèmes électroniques qui
s'occupent. Voilà, puis ça donne l'énergie nécessaire pour garder ce qu'il faut dans le véhicule. Alors voilà, merci Alain. On a pris des questions. On va en avoir d'autres. Si jamais vous en avez, d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site du 98.5 FM. C'est balado avec un S au 98.5 FM.ca. Alain prend les questions sur sa page Facebook. Je prends les questions. Vous pouvez même aller sur annuelauto.ca. Je trouve les questions et on les ramène à l'émission. Merci, puis on s'en reparle la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Ce balado C23 vous a été présenté par le 98.5.
C23.